Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, une révolution sans précédent sexuelle, médicale et sociale, la légalisation de la pilule contraceptive. En 1967, grâce à l'engagement de militantes et de militants, de scientifiques et de politiques, le droit à la contraception est enfin reconnu. Les femmes et les couples vont pouvoir dissocier sexualité et procréation, un enfant si je veux, quand je veux. Une étape majeure dans l'histoire de l'émancipation féminine, avant la loi Veil bien sûr, sur l'IVG. Un combat d'hier, un peu oublié, dont pourtant nous continuons à bénéficier de nos jours. Des pionnières et des pionniers aussi, grâce à qui tout changea et dont nous souhaitons rappeler ici la mémoire. Parfois décriée, accusée de tous les maux, la pilule a pourtant donné aux femmes un espace de liberté qu'on ne saurait remettre en cause aujourd'hui. Retour donc sur les débats qui ont mené à la légalisation de la pilule contraceptive à la veille de mai 68. Notre invité aujourd'hui, Danielle Gaudry, gynécologue obstétricienne, militante et personne ressource au planning familial où elle a assuré des responsabilités nationales pendant de nombreuses années. Vous entendrez également le reportage d'Anaëlle Verzeau qui est allée à la rencontre de 8 jeunes pour recueillir leurs sentiments, leurs pratiques de la contraception, ou non d'ailleurs. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillard, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacuboviez.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Depuis toujours, hommes et femmes ont mis au point des techniques pour pouvoir faire l'amour sans faire d'enfant. Des recettes de grand-mère, comme la douche froide, la méthode Ogino fondée sur le cycle menstruel ou, plus acrobatique, le coitus interruptus, appelé aussi retrait. Enfin, des procédés peu fiables que les médecins conseillent pourtant dans les années 60. Car en France, depuis 1920, une loi interdit non seulement d'avoir recours à une contraception non naturelle, mais aussi d'en faire la promotion. Les médecins n'ont pas le droit d'en parler à leurs patientes. Et qu'en savent-ils d'ailleurs ? La contraception ne fait pas partie des enseignements reçus en fac de médecine et elle n'est pas non plus un sujet de recherche dans les labos français. À l'étranger pourtant, et notamment au Royaume-Uni, en Suisse ou aux États-Unis, la contraception est autorisée et même encouragée. Dans les cliniques de birth control américaines, on prescrit stérilets, diaphragmes et autres gels spermicides. Quant aux préservatifs, on en trouve en France, mais il est si épais, si inconfortable qu'on le réserve aux prostituées pour éviter les maladies. C'est aux États-Unis en 1956 que naît une invention révolutionnaire. Soutenue par la militante anarchiste Margaret Sanger et la philanthrope Catherine McCormick, Gregory Pincus, biologiste, développe le comprimé Enovid. On l'appellera bientôt la pilule, un nom inspiré du roman d'anticipation d'Aldous Huxley, auteur du Meilleur des mondes, publié en 1932. Sans base scientifique, le romancier britannique avait imaginé un produit capable de maîtriser la fécondité, la pilule, que Gregory Pincus rend lui bien réel dans les années 50. Pendant plusieurs années, le biologiste américain expérimente sur des femmes portoricaines un comprimé à base d'œstrogènes et de progestine. Des mots savants pour désigner en vérité des dérivés synthétiques d'hormones naturelles qui permettent de bloquer l'ovulation pendant la gestation. Un procès scientifique assez simple pour un produit efficace et pratique. Au début de la décennie 60, en France, des centaines de milliers de femmes avortent clandestinement chaque année. Certaines, on les estime à 300, meurent des suites de curetages violents sans anesthésie, tandis que d'autres finissent stériles. Il n'est pas rare qu'une femme, notamment dans les milieux populaires, subisse 10 ou 12 avortements dans sa vie. Face à ces chiffres alarmants, des médecins vont s'engager sur le modèle anglo-saxon en faveur du contrôle des naissances. Parmi eux, le docteur Marie André Veil-Hallet et la sociologue Evelyne Sullerow qui fondent la Maternité Heureuse le 8 mars 1956. devenu planning familial 2 ans plus tard, l'association entend assurer l'équilibre du couple, l'harmonie des familles et la santé des femmes, et il défend pour cela la contraception. Déjouant la loi, des médecins proches du planning familial vont poser diaphragmes et stérilets venus de l'étranger aux adhérentes de l'association, mais aussi prescrire la fameuse pilule de Pincus et Novide vendue en France pour traiter les douleurs liées aux règles. En 5 ans, les adhérentes au planning familial passeront de 5 000 à 110 000. En donnant une large audience à l'association du docteur Veilallé, les médias vont nourrir les débats qui commencent à éclore concernant l'abrogation de la loi de 1920 qui interdit la contraception. La pilule de Gregory Pincus, la pilule américaine comme on dit à la télé, c'est LE sujet de société au début des années 60. Car ce qui préoccupe alors les Français, ce sont les dangers des avortements clandestins. La libération de la femme, la défense de ses droits, ce n'est pas encore le sujet.
Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants qui ne les demandent pas, qui arrivent à presque 9 mois d'intervalle. Alors il y a le problème du logement, il y a le problème de la paye du mari qui n'est pas élever les enfants. Quoi.
Je trouve que c'est un bien dans certaines familles parce que la femme devient esclave quand il y a beaucoup d'enfants.
Ah, je pense que la question est importante, oui. Surtout lorsqu'on voit par exemple dans Lille ou un peu partout des familles de 7-8 gosses dont les parents n'ont pas les moyens de les loger, 4 dans une chambre, les parents certainement seraient bien contents d'en avoir 2 ou 3 de moins. Hein.
Oui, c'est très important quand même, parce que je vous dis, tout le monde n'a pas les moyens d'élever des grosses familles, et il y a assez de petits malheureux sur Terre. Chez des foyers où on gagne beaucoup, c'est normal qu'il y ait des enfants, mais tout le monde n'a pas la santé ni l'argent pour élever beaucoup de grosses familles.
C'est la campagne présidentielle de 1965 qui va faire entrer le débat sur la contraception dans le monde politique. François Mitterrand est le premier des candidats à parler de contrôle des naissances, alors que pour beaucoup de Français, le président de la République en place, Charles de Gaulle, est un homme du passé. Il est d'ailleurs le seul candidat qui ne s'est pas déclaré en faveur de la contraception. Amusement, bagatelle, distraction, ce sont les mots qu'il utilise pour désigner la sexualité. D'ailleurs, aucune des 11 propositions de loi sur la contraception déposées au début des années 60 n'est appliquée. Et le général ne semble pas vouloir se pencher plus avant sur la question. C'est pourtant sous sa présidence que le ministre de la Santé, Raymond Marcellin, va nommer une commission chargée d'étudier les conséquences éventuelles sur la santé de l'absorption de produits anticonceptionnels, aussi appelés commission pilule. Parmi les 13 sages, professeurs de médecine et députés qui se penchent sur le sujet, aucune femme. Malgré les résistances qui se manifestent déjà lors de ces premières discussions, la commission remet un rapport plutôt favorable à la contraception, oui. Mais il reste confidentiel dans l'attente d'une décision du gouvernement. Le rapport de la commission pilule, mais aussi les succès du planning familial du docteur Veilallé vont convaincre Lucien Neuwirth, député de la Loire, gaulliste, de demander à l'Assemblée l'abrogation de la loi de 1920. Il dépose son projet de loi le 18 mai 1966, le jour de son anniversaire, histoire de rassurer les inquiets. Oui, il souhaite que la pilule soit autorisée, mais il respecte la vie et la procréation. Lucien Neuwirth est un partisan de longue date de la contraception, dont il a découvert l'existence à 17 ans en Angleterre, en même temps qu'il a découvert l'amour, comme on le comprend dans cette émission à propos.
Comment en êtes-vous arrivé là? Au terme de quelles préoccupations personnelles, de quels débats intérieurs peut-être?
Vous savez, ça a été un long cheminement. Pendant la guerre, j'étais aux forces françaises libres, j'ai vécu en Angleterre, et les Anglaises pratiquaient la contraception officiellement depuis longtemps.
Et vous pratiquiez les Anglaises?
C'est une façon de parler. Enfin, je savais comment elles pratiquaient. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup à travers le monde. Et j'ai découvert qu'il existait cette différence un peu incompréhensible, que dans d'autres pays, on acceptait la maternité volontaire, la maternité consciente, alors que dans notre pays, on en était encore et toujours à la maternité accident, à la maternité due au hasard.
Résistant de la première heure, le jeune Lucien Neuwirth côtoie des femmes qui, comme lui, risquent leur vie. Et il les considère comme ses égales. À la Libération, devenu adjoint au maire de Saint-Étienne, il rencontre des mères de famille nombreuses, débordées, des enfants abandonnés, et découvre les drames liés aux grossesses non désirées. L'une de ses jeunes amies, enceinte et rejetée par sa famille bourgeoise, se suicide. En 1957, Lucien de Wirt rencontre les fondatrices de la Maternité Heureuse, ou Planning Familial. Evelyne Sulereau, Marie-André Veille-Allais et le médecin Pierre Simon contactent de qu'il finit d'asseoir sa certitude, il faut légaliser la pilule. Peu après le dépôt du projet de loi, en mai 1966, le député obtient une audience auprès du général de Gaulle qui apprécie son passé de résistant. Lucien de Wirt se souvient.
Le général m'avait dit un jour à l'Élysée, au camion de réception, il m'avait dit « Dites donc, de Wirt, il faudrait que vous veniez me parler de votre affaire. » Alors j'ai été lui parler de mon affaire. Ça a duré 50 minutes. C'est très impressionnant quand on était dans le bureau du général. Je voyais que ses jambes se dépliaient, se repliaient sous le bureau. Pas un mot. Et je plaidais le dossier. À un moment, j'ai eu l'impression d'être un avocat qui venait sauver la tête de son client, qui venait essayer de sauver la tête de son client. Et puis, bon, j'ai développé mon dossier que je connaissais bien et j'ai terminé en disant justement au général, « Mon général, à la Libération, vous avez donné le droit de vote aux femmes. Elles l'avaient bien gagné pendant la résistance. Vous avez bien fait de leur donner. Mais maintenant, je crois que les temps sont venus de leur donner la maîtrise de leur fécondité. » Grand silence et il me dit, « C'est vrai. Transmettre la vie, c'est important. Il faut que ce soit un acte lucide, continué. » Et voilà, comment c'est parti.
Le mercredi suivant cette rencontre, à la surprise générale, le général de Gaulle fait inscrire la proposition de loi Neuwirth à l'ordre du jour de l'Assemblée. Dans les jours qui suivent, la fille du député de la Loire, âgée de 13 ans, est renvoyée de l'établissement privé religieux où elle était scolarisée sur pression des parents d'élèves. Le portail de la maison de Lucien de Wirt est recouvert d'insultes, assassin d'enfants, fossoyeur de la France. Et dans un paquet recommandé, il reçoit un fœtus accompagné de ce mot « salaud, voilà ce que tu as fait ». Pourtant, tandis qu'une partie de la France n'avale pas la pilule, des femmes dans la rue, par lettre, remercient, elles, le député gaulliste, et elles leur disent « tenez bon, merci ». La France est partagée. En juin 1966, une commission parlementaire spéciale est créée. Ses membres, issus de tous les groupes politiques, vont rencontrer pendant 6 mois des experts, médecins, biologistes, démographes, mais aussi des représentants du monde religieux et des associations familiales. La commission parlementaire, qui comprend entre autres François Mitterrand et Marie-Claude Vaillant-Couturier, entendra par exemple Jacques Monod, Pierre Bourdieu ou le professeur Beaulieu de l'Organisation mondiale pour la santé, qui jouera un rôle déterminant. Les diverses prises de position qui s'expriment dans cette commission reflètent les controverses à l'œuvre dans la société française. Si les représentants juifs et protestants se déclarent en faveur de la contraception médicale, l'Église catholique s'y oppose formellement. Une encyclique, Humanae Vitae, va affirmer l'attachement au dogme conservateur du pape Paul VI. Tout acte matrimonial doit rester ouvert à la transmission de la vie, écrit-il. Les catholiques de France, comme l'ensemble du pays, sont divisés. Certains, à commencer par le pape, considèrent que la contraception détruirait la finalité de l'acte conjugal. D'autres estiment que la fécondité d'un couple ne repose pas sur le nombre d'enfants et souhaiteraient que le pape se montre, disons, plus ouvert. Le poids de l'Église catholique et ses interdits moraux sont encore très importants dans la France de 1966. Beaucoup de Français pensent eux aussi que la contraception est contraire à la loi naturelle. Certains avancent même qu'elle inciterait les honnêtes femmes à l'adultère, voire à la prostitution. Le docteur Chauchard, fervent adversaire des petites dames du planning familial, comme il les désigne avec mépris, écrit « La femme bouchée ou pilulée ne connaîtra que l'amour stérile des drogués ». Un autre médecin, gynécologue reconnu, explique ainsi la position de l'Ordre national des médecins à la télé.
Cette pilule risque d'entraîner des ennuis pour la santé des femmes et que par conséquent, encore une fois, il paraît difficile de rendre malade une femme qui ne l'était pas et qui pourrait secondairement se retourner contre son médecin en lui reprochant de lui avoir donné un médicament qui nuisait à sa santé, auparavant intact.
Docteur, je comprends que vous vous opposiez à ces moyens chimiques comme la pilule. Et je ne comprends pas très bien pourquoi vous vous opposez aux autres moyens qui, eux, sont inoffensifs.
Eh bien, tous ces moyens qui sont inoffensifs sont en effet très discutables sur un plan, d'ailleurs, qui n'est pas exclusivement médical, mais qui débouche sur d'autres problèmes, et en particulier sur les problèmes qui ont trait à la dissociation de l'acte sexuel et de la procréation. Nous sommes là dans un domaine qui est un peu différent et pour lesquels les médecins ont tout de même la liberté d'avoir une opinion.
L'Ordre national des médecins, entendu par la commission parlementaire, se montre donc hostile à la contraception médicale et notamment à la pilule. Car l'invention de l'Américain Gregory Pincus est devenue l'emblème du projet de loi de Lucien de Wirth, désormais surnommé Lulu la pilule. Aucune étude ne permet de dégager des conclusions définitives quant au danger de la méthode, mais les scientifiques n'hésitent pas à affirmer dans la presse que la pilule rend chauve, qu'elle fait pousser la barbe, qu'elle donne le cancer. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé elle-même a conclu qu'elle était sans danger. Face à ces médecins soucieux de préserver l'ordre des choses autant et peut-être même plus que la santé des femmes, d'autres praticiens s'engagent pour la pilule. C'est le cas d'Étienne-Émile Beaulieu, qui inventera plus tard la pilule du lendemain. De Pierre Simon, directeur du collège médical du planning familial, qui forme depuis plusieurs années des médecins à la contraception. Ou encore d'André Berger, également médecin du planning. Le mouvement français pour le planning familial cherche alors à donner une légitimité scientifique au débat politique afin de justifier le contrôle des naissances. Son argument, protéger la vie des femmes qui souffrent de curetage sans anesthésie et meurent d'avortements clandestins, mais aussi celle des enfants. Le docteur Berger du planning familial est ainsi l'un des théoriciens de l'enfance inadaptée qui considère qu'un enfant désiré sera psychologiquement plus équilibré. Dans la presse qui s'est globalement ralliée à la loi, on souligne également l'importance de la famille et de l'épanouissement des femmes qui pourront choisir d'enfanter ou pas. Paris Jour, mais Shirley MacLaine en couverture, souriante, avec un bébé dans les bras. Malgré le succès de la pilule aux États-Unis, elle ne s'est pas privée du bonheur d'être mère, titre le magazine. La docteure Vail Allais, fondatrice du planning familial, voit la contraception comme un moyen de favoriser l'harmonie des familles et du couple. Elle parle de la grande peur d'aimer, c'est-à-dire de tomber enceinte en faisant l'amour. Une peur qui paralyse bien des couples, comme l'explique cette femme, Michel.
J'ai eu deux enfants à 22 mois de différence. Je me suis retrouvée enceinte d'un troisième 9 mois après. Et lorsque j'ai su que j'étais enceinte d'un troisième, j'ai dit je ne pourrais pas. Je n'arriverai pas. Ou je vais en crever. Ou je ne reste pas avec cet homme-là qui me fait des gosses tout le temps. Et j'ai dit il faut que je fasse quelque chose. Donc je suis allée au planning familial pour leur dire que je ne pourrais pas avoir plein d'enfants. Parce que j'en mourrais. Moi, je me souviens que quand j'avais une relation, j'étais très amoureuse de mon mari à l'époque, et j'avais une peur bleue. Je disais, je suis sûre que à la fin du mois, je suis enceinte. Parce que les deux premiers, ben, je ne les ai pas vus arriver, je n'ai pas su comment ça a été fait. On pratiquait le retrait, je courais vite dans les toilettes pour me passer de l'eau froide, enfin bref, tout ce que ma belle-mère me disait à l'époque, dépêche-toi d'aller faire ta toilette, et en fin de compte, j'ai eu Laurent, le deuxième, et puis un troisième. Donc, on était frustrés, moi j'étais très mal. Moi j'avais peur.
Bientôt, alors que mai 68 approche, les revendications des militantes évoluent. La bataille pour la pilule connaît les balbutiements d'un féminisme plus radical que celui du planning familial. Là, il ne s'agit pas seulement de la sexualité du couple, mais du droit des femmes à disposer de leur corps et de leur liberté sexuelle. Un discours que la cofondatrice du planning, Evelyne Sullereau, qualifie de dérapage vers la guerre des sexes, entraînant la négation du couple parental et l'élimination des pères. À la fin des années 60, les courriers du cœur de la presse féminine en témoignent, les femmes sont de plus en plus curieuses de sexualité. Au-delà des couples, ce sont elles qui s'émancipent. D'ailleurs, parce qu'elles se prennent en amont du rapport, la pilule leur donne le contrôle de leur sexualité. Une émancipation qui ne plaît pas à tout le monde.
Hello.
1967, le mot « contraception » entre dans le dictionnaire. Le 12 avril, Lucien De Weerdt dépose une deuxième version de sa proposition de loi, inspirée du rapport de la commission parlementaire qu'il a dirigé. Le 1er juillet, le texte est lu devant les députés. L'atmosphère est tendue à l'Assemblée, presque houleuse. Lucien De Weerdt se souvient.
Alors bien sûr, il y a eu des sourires un peu partout, surtout que dans la majorité de l'époque, la contraception, je ne peux pas dire qu'elle était très bien vue. Et nous avons eu des débats qui ont été illustrés par des déclarations inoubliables de certains parlementaires. Alors je crois que le plus beau passage d'un morceau de bravoure a été celui-ci, je cite. Il est d'ailleurs au journal officiel du 1er juillet 1967. « D'autre part, les maris ont-ils songé que désormais, c'est la femme qui détiendra le pouvoir absolu d'avoir ou ne pas avoir d'enfant en absorbant la pilule, même à leur insu ? Les hommes perdront alors la fière conscience de leur virilité féconde et les femmes ne seront plus qu'un objet de volupté stérile. »
À droite, Lucien De Weerdt a tout de même quelques soutiens comme Georges Pompidou, Jean-Marcel Jeanneney ou Jacques Chaban-Delmas. Mais la plus grande partie du gouvernement et des gaullistes sont contre l'abrogation de la loi de 1920 et contre la contraception médicale, qu'il s'agisse de pilules, de diaphragmes ou de stérilets. Sur les bancs de l'Assemblée, les parlementaires parlent de laxisme, de pourrissement des mœurs. Vous, les gaullistes de gauche, vous avez livré l'Algérie et maintenant vous allez transformer la France en lupanar, entend Lucien De Weerdt. On annonce des mutations chromosomiques chez les enfants qui naîtront, la vengeance à venir de la nature contre cette dénaturation de la femme. Certains députés de droite réclament des amendements. On demande, par exemple, à ce que l'autorisation du mari soit obligatoire ou encore de réserver la contraception aux mères d'au moins 3 enfants. Le Parti communiste français, qui s'opposait initialement au contrôle des naissances et à la contraception, vire de bord. Mais souvenons-nous qu'en 1956, Jeannette Vermeersch, la femme de Maurice Thorez, déclarait dans l'hebdomadaire communiste France Nouvelle « Mais depuis quand les femmes travailleuses réclameraient le droit d'accéder aux vices de la bourgeoisie ? Jamais !» 11 ans après, en 1967, elle soutient la loi De Weerdt avec l'ensemble de son parti et de l'opposition de gauche. Le vote à main levée se déroule le 19 décembre 1967 lors de la dernière session de l'année. Pour Lucien De Weerdt, c'est le résultat d'une course contre la montre car le vote risquait d'être reporté l'année suivante.
Hier soir, à une écrasante majorité, les députés ont adopté la loi sur la régulation des naissances et les contraceptifs, connue également sous le nom de loi De Weerdt ou de loi pilule. Cette nouvelle loi annule celle de 1920, toujours en vigueur mais jamais appliquée. Voici les principaux points de cette nouvelle loi.
Les contraceptifs ne sont plus hors la loi, mais la propagande contre la natalité et la publicité pour ces produits restent interdits. Les contraceptifs ne seront délivrés qu'en pharmacie, sur ordonnance au nom de l'intéressé et remise à la femme elle-même. Enfin, pour les mineurs, l'ordonnance ne sera délivrée qu'avec le consentement des parents.
La proposition de loi de Lucien De Weerdt, dite loi pilule, est adoptée 30 minutes avant la fin de la session avec 176 voix contre 37. Sans grand enthousiasme, presque par fatalisme, une partie de la majorité gaulliste a donc approuvé l'abrogation de la loi de 1920. Le 28 décembre 1967, le général de Gaulle promulgue la loi. Désormais, la pilule, les stérilets, les diaphragmes et les gelés spermicides sont autorisés à la vente. Une décision fondatrice, emblématique de la libération des mœurs. Une liberté, cela dit, en demi-teinte, car la loi De Weerdt ne rend pas l'accès à la contraception si aisé qu'on le pense. Oui, ce texte comporte son lot d'espoirs déçus. Il interdit la publicité concernant les contraceptifs, instaure une autorisation parentale jusqu'à 21 ans et proscrit toujours l'avortement. Par ailleurs, l'application de la loi dépend de décrets que l'administration ne s'empresse pas de publier jusqu'en 1972. Des contraceptifs existent déjà, mais les nécessaires autorisations de mise sur le marché ne sont pas délivrées. En 1970, 3 ans après le vote de la loi, aucune pilule contraceptive désignée comme telle n'est encore en vente. Les médecins prescrivent des contraceptifs, mais ils sont vendus sous couvert d'indications thérapeutiques. Bref, les Françaises jouissent d'une semi-liberté qui les oblige à flirter avec l'illégalité. Si l'administration ralentit volontairement la publication des décrets d'application de la loi et les autorisations de vente, se justifie-t-elle? C'est parce que les effets secondaires des pilules existantes sont difficiles à évaluer. Hypocrisie, dénoncent les militantes en faveur de la contraception. La pilule est là, dans les pharmacies, et si les décrets ne sont pas publiés, c'est parce que certains la jugent dangereuse moralement et non médicalement. Lucien De Wirth le regrette, bien sûr, de même qu'il regrette les retards dans la mise en place des centres d'information.
Nous nous sommes heurtés, pour l'application de cette loi, à un état d'esprit conservateur, rétrograde, je dirais aussi à un manque de clairvoyance, de discernement et peut-être de générosité. On a placé les femmes, les couples, devant l'alternative accouchement-avortement, sans leur expliquer, sans leur indiquer qu'il y avait autre chose. On n'a fait aucune éducation sexuelle. Vous-même, vous avez fait, comme moi-même, de l'auto-information. On a découvert les vérités de la vie au hasard de ce qu'on glanait sous les préaux des écoles ou dans les bureaux. Tout ça n'est pas sérieux.
Est-ce que vous pensez que des décrets d'application vont enfin permettre cette information?
Je viens de voir le Premier ministre et j'ai rencontré en lui un homme ouvert à ses problèmes et je crois pas être trop optimiste en estimant que très prochainement, l'arrêté qui permet enfin l'agrément des centres d'information et de consultation sera signé.
Dans les faits, et même si les textes ne sont pas immédiatement appliqués, les femmes sont de plus en plus nombreuses à prendre la pilule. 400 000 en 68, 600 000 en 70, 1 200 000 en 72. Et elles seront bientôt encore davantage. Car Simone Veil, ministre de la Santé de Valéry Giscard d'Estaing, élue président de la République le 19 mai 1974, va faire voter la loi que beaucoup de femmes attendaient.
Je crois que ce qui est important, et c'est d'ailleurs l'aspect auquel le président de la République lui-même, hier en Conseil des ministres, qu'il a particulièrement souligné, c'est la normalisation de la contraception. La contraception doit entrer dans la vie des Françaises comme une chose tout à fait normale. On planifie sa famille, un jeune couple sait le nombre d'enfants qu'il veut avoir, et la femme doit pouvoir faire appel à la contraception comme un acte médical, n'importe lequel. Elle peut aussi bien aller voir son médecin qu'aller dans un centre de PMI.
Pourquoi ces remboursements?
Pour normaliser, justement, pour bien montrer que la contraception n'est pas un acte à part. On estime qu'au fond, un certain nombre de femmes se méfient de la contraception, pensent que ça n'est pas une chose normale. La pilule, notamment, a fait l'objet d'une certaine méfiance de la part des femmes, et le fait que ça ne soit pas remboursé renforçait cette méfiance.
La loi du 4 décembre 1974, votée avec le soutien de la gauche et d'une partie de la droite, dont Lucien De Wirth, entend corriger les défauts de la loi de 67. Désormais, les mineurs peuvent accéder à la contraception sans autorisation parentale, avec remboursement de la sécurité sociale pour toutes les femmes. Par ailleurs, l'information sur les contraceptifs et leur promotion sont autorisées. L'année suivante, les Françaises de 15 à 49 ans seront plus de 2 millions à prendre la pilule. Un chiffre qui ne cessera de croître avant de suivre le mouvement inverse aujourd'hui. En 1974, 7 ans après le vote de l'Assemblée, la loi telle que l'imaginaient les militantes du planning familial et Lucien De Wirth est enfin effective. Mais le nombre des avortements clandestins ne cesse d'augmenter, les femmes vont mourir. Le constat est clair, la pilule ne suffit pas. Quelques jours avant le vote du 4 décembre 1974, qui libéralise la contraception, Simone Veil présente au Parlement son nouveau projet de loi, promulgué 2 mois plus tard, le 18 janvier 1975, la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Un combat et une victoire majeure des militantes féministes, du planning familial, du mouvement de libération des femmes, l'étape ultime d'un processus auquel la loi pilule de 67 avait ouvert la voie. Cause ou effet de la libération des mœurs, la pilule est sans doute un peu les deux à la fois. Et même si elle est régulièrement accusée de nuire à la santé, elle reste l'emblème d'une liberté pour laquelle des femmes et des hommes se sont battus et qui nous paraît si naturelle aujourd'hui.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la pilule contraceptive. Notre invité, Danielle Gaudry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, militante, vous êtes engagée auprès du mouvement pour le planning familial, où vous avez assuré des responsabilités nationales pendant de nombreuses années. Donc on va parler aussi du planning familial, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler depuis que cette émission existe. Mais là, c'est l'occasion, voilà, on ne va pas gêner. Toutefois, je vais vous faire remonter dans vos souvenirs. En 1967, quand la pilule a été légalisée, où étiez-vous? Que faisiez-vous? Et comment avez-vous réagi?
Alors, où j'étais? J'étais à préparer mon baccalauréat.
Ouais.
Donc
vous étiez déjà une jeune femme. Donc vous...
Voilà, j'avais 17 ans. Ce qui m'a importé à ce moment-là, c'était pas trop par rapport à moi, parce qu'à 17 ans, je ne pensais pas encore forcément à la contraception, mais par rapport à ma mère, à la génération de ma mère, où c'est une génération qui a été, effectivement, qui avait peur de faire l'amour parce qu'elle pensait être enceinte à la fin de chaque mois. Et c'était, j'allais dire, un discours qu'on tenait à la maison, dans la famille.
Enfin, votre mère vous en a parlé de ça, par exemple?
Absolument, ouais. Absolument. À part que, pour prendre la pilule, elle avait déjà fait des démarches pour avoir un diaphragme. Enfin bon, c'est une réalité. C'est que la contraception était un sujet dans les familles. C'était pas, enfin, en tout cas, dans ma famille, ça l'était. Oui. Donc, même si je n'étais pas concernée pour le présent par cette question, c'était une question que je connaissais. Donc,
votre conscience a été éveillée
parce
que vous avez vu de
absolument.
Votre mère. Et comment elle a, alors, j'imagine qu'elle a réagi très positivement. Elle a dû vous dire que c'est un progrès formidable, un soulagement. Qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Je pense que elle a pas sauté de joie.
Bien sûr,
on n'a pas fait une fête familiale pour
elle,
ça.
Elle avait le temps d'y réfléchir avant. Voilà, c'est une maturation.
Exactement. Mais ça lui a permis de vivre une vie de couple, effectivement, plus tranquille et d'être moins angoissée dans sa vie de tous les jours. Et donc ces enfants qui nous existions déjà, effectivement, étaient aussi plus sereins. Je veux dire, le fait d'avoir dans une famille un équilibre satisfaisant pour la femme, ça correspondait aussi à un équilibre familial général plus satisfaisant.
Et cette histoire familiale et ce dialogue qui existait dans votre famille, cet éveil des consciences, ça vous a poussé ensuite à être militante et à donner des consultations gynécologiques pour le planning familial, c'est lié?
Alors, c'est sûrement lié de façon profonde. Par contre, les événements, ça a été quand même mon engagement, une fois que j'ai commencé médecine, à avoir rencontré des jeunes amis qui se retrouvaient confrontés, bien sûr, à des grossesses absolument pas désirées et avec des complications d'avortement qui m'ont amené à pratiquer des avortements même avant la loi, bien sûr.
Alors aujourd'hui, le planning familial, quelle est sa mission? Est-ce qu'il a encore un rôle militant? Quels sont les enjeux? Et qui sont les femmes qui viennent vous voir et pourquoi?
Alors, le planning familial, tel qu'il est aujourd'hui, a une dimension militante, oui, très, très forte, avec des débats politiques importants, des interventions dans de multiples questions de société concernant les droits des femmes en général et plus particulièrement tout ce qui touche les droits sexuels et reproductifs quand on parle au niveau international. Ces enjeux montrent que il faut dire que rien n'est jamais acquis. C'est-à-dire que la loi en France, elle existe pour la contraception, elle existe pour l'avortement. On peut toujours améliorer les lois, mais aussi on peut les faire régresser. Et nous voyons la situation actuellement en Europe, au niveau de la Pologne par exemple, ou en Italie, où les choses sont difficiles. On espère pour l'Irlande qu'il y aura un progrès le 25 mai, avec le référendum, mais ça n'est pas gagné. Enfin, je veux dire, chaque loi, elle existe quand il y a une volonté de l'appliquer, ce qui n'est pas forcément le cas selon les choix politiques. Donc le planning, il est là aussi pour ça.
Toujours en vigilance. Quoi.
Toujours en vigilance, avec les autres associations féministes, bien entendu, pas seules. Il est également là pour l'éducation à la sexualité, auquel Monsieur Lucien Nevers tenait tellement, parce que c'était quand même un de ses soucis et une de ses préoccupations qui a fait que la loi en 2001 a obligé l'éducation nationale à faire des séances d'éducation dans les écoles pendant la scolarité obligatoire. Donc ça, c'est pour montrer à quel point il était engagé. Hein, ouais. Et j'ai eu vraiment l'extrême plaisir de travailler avec lui à cette époque-là. Et également, le planning est là aussi pour encore faire des consultations, faire également un certain nombre d'avortements par voie médicamenteuse ou même par aspiration quand c'est possible dans ces locaux. Donc voilà, c'est vraiment finalement... Depuis 1956, le planning a toujours eu un rôle important, comme vous l'avez rappelé. Il y a eu la fracture au moment de la loi sur la contraception, puisqu'un certain nombre de médecins ont quitté le planning, puisqu'ils ne voulaient pas lutter pour obtenir le droit à l'avortement.
À la contraception ou l'avortement ?
Non, ils voulaient bien la loi sur la contraception,
mais pas l'avortement, d'accord.
Mais pas s'occuper. Ben oui. L'avortement. Oui. Donc là, ça a été vraiment un tournant important pour notre association.
Lucien Neuwirth, donc vous l'avez rencontré plusieurs fois, vous en gardez un souvenir évidemment positif et ému. Cela dit, le général de Gaulle lui aussi a fait quand même preuve d'ouverture, il a montré sa capacité à sentir quand même les aspirations de la société, puisqu'il aurait pu dire non. Il disait à un moment, on ne va pas livrer la France à la bagatelle, hein, c'est bien ça. Puis là, alors Neuwirth est convaincant, probablement, mais le général de Gaulle, s'il n'avait pas voulu être convaincu, il aurait fermé la porte. Il n'a pas fait.
Je pense que le général de Gaulle, même si ça ne représentait pas mes options politiques, avait une grande intelligence et voyait bien que la vie sociale évoluait, que oui. L'opinion évoluait et que, de toute façon, s'il n'autorisait pas, ça se ferait quand même. Donc il fallait mieux que ça se fasse avec lui, tant qu'à faire, plutôt que contre lui.
Un grand sens politique. Je vous présente Annaëlle Verzeau, qui est assise en face de vous. C'est notre reporter. Bonjour Annaëlle.
Bonjour.
Alors, vous avez rencontré des jeunes, âgés de 16 à 19 ans, donc de jeunes gens, des femmes et des jeunes hommes.
Ils sont de Paris et de banlieue parisienne et de milieux sociaux différents. Pauline est fille d'ouvrier, elle vit à Bobigny. Capucine et Benjamin vivent dans le 13e arrondissement. Firat est kurde, il habite en Seine-Saint-Denis. Il y avait aussi Marion, Pierre et Mathieu, qui est d'une famille plus bourgeoise. Et nous nous sommes retrouvés dans un bar du centre de Paris.
Alors vous avez lancé la discussion sur la pilule et leurs moyens de contraception à ces jeunes gens.
Est-ce que c'est tabou, la pilule ? Pour vous, est-ce que c'est tabou, Pauline ?
Pour moi, la pilule féminine, c'est pas un tabou, parce que c'est considéré comme normal, les gens se posent même plus la question. Normalement, une femme prend la pilule et c'est carré, c'est fait, et voilà.
Toi, tu prends la pilule ?
Non. Je prends pas la pilule, c'est un choix personnel de ne pas la prendre. J'ai des antécédents dans ma famille cardiaque. En plus, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont sorties par rapport aux problèmes de santé liés à la pilule, etc. Le cancer du sein, du col de l'utérus, donc j'ai préféré ne pas la prendre.
Et du coup, tu as d'autres moyens de contraception ?
Oui, oui, j'utilise des préservatifs.
Et ça marche bien ?
Oui, 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 j'ai pas encore eu d'enfant pour le moment.
Firat, t'as une copine ?
En ce moment, non.
Mais ça t'est arrivé d'avoir des copines ?
Oui.
Avant de faire l'amour avec elles, est-ce que tu leur poses la question ?
Pas vraiment, mais...
Et de toute façon, il y a un moyen de contraception ou ça arrive que, bon, s'il n'y a pas, il n'y a pas ?
Non, il arrive qu'il n'y a pas, parce qu'une protection n'est pas forcément obligatoire à chaque rapport, enfin... C'est plus pour éviter les MST ou une des pratiques de contraception qu'on avait l'habitude d'avoir, c'était en fait se baser sur l'ovulation, sur la période d'ovulation. C'était avec ma copine, du coup...
Attends, ça te fait réagir, toi, Pauline ?
Pour le coup, ça marche pas. Franchement, ça dépend des femmes, en fait. Le truc de faire, par rapport aux semaines, etc., c'est complètement bidon. Fin...
Du coup, j'ai de la chance.
Et toi, Pierre, qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas si t'as une copine ?
Oui, et moi, de ce que je pense aussi, c'est que ça se fait sur une confiance.
T'as une copine depuis un moment, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et elle prend la pilule ?
Bah oui.
Tu sais quelle pilule elle prend ?
C'est une pilule. C'est-à-dire, je savais pas qu'il y en avait plusieurs, il y en a qu'une normalement.
Non,
il y a, enfin, il y a plusieurs marques.
Il y a des marques. Ouais.
Et puis il y a des micro-dosés. Des...
Après, c'est le mec de la pharmacie donne la pilule.
Tu savais pas qu'il y avait plusieurs genres de pilules?
Non, pas du tout. Après.
Il est trop fort.
Et toi, Capucine, c'est quoi ta pilule?
La pilule Lilou G, c'est une récente qui est faite pour les fumeurs, justement. Et du coup, c'est pratique et j'ai aucun effet secondaire. Du coup, c'est bien.
Mais est-ce que vous vous protégez toujours? Est-ce que vous mettez toujours un préservatif si jamais, je sais pas, votre copine a oublié de prendre sa pilule ou...
Bah, dans ce cas-là, oui, le mieux, c'est que j'utilise le préservatif.
Oui, mais est-ce que tu le fais?
Ben, oui et non. Une fois qu'on a la maîtrise et l'expérience, on peut s'en passer à des moments, j'ai envie de dire.
Tu te retires avant, quoi.
C'est ça.
Ça marche pas toujours, ça.
Ah, c'est ce qu'on dit.
Et toi, Firat?
Non, il est arrivé qu'il y a eu des rapports non protégés et que la prise de pilule ne s'est pas faite, mais le lendemain, ben, on allait à la pharmacie, on prenait une pilule le lendemain et voilà.
Enfin, la fille avec qui tu avais fait l'amour a pris la pilule du lendemain.
Oui, c'est sûr qu'on n'a pas pris tous les deux.
C'est encore une contrainte pour la femme au final, parce que même la pilule du lendemain, il y a des effets secondaires qui peuvent venir. Après, je suis chiante. Hein. Pour le coup, je crois pas la pilule. Mais franchement, il peut y avoir des effets secondaires encore pires que la pilule.
Bon, en fait, c'est que si elle le prend régulièrement. De base, on sait très bien que c'est pas à prendre comme un bonbon, genre tous les jours ou je ne sais quoi. C'est à prendre une fois, en fait.
Quelqu'un a déjà pris la pilule du lendemain? Marion?
Non, ça m'est pas venu à l'esprit, donc non.
Ah, t'as jamais été obligée de le faire?
Enfin, si, j'aurais pu, mais genre, je l'ai pas fait.
Tu t'es dit, bon, ça ira.
Ouais.
La roulette russe, quoi.
Ouais, non, c'est ça.
Et toi, Capucine?
Ouais, une fois. Mais ouais, du coup, j'ai eu un effet secondaire, c'est-à-dire que j'ai eu mes règles le lendemain. Du coup, ouais, et après, j'ai re-eu mes règles à la date que je vais avoir. Du coup, voilà.
Du coup, tu prends la pilule?
Ouais. Ouais, du coup, ouais.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Daniel Gaudry? Il y a beaucoup de choses, hein, une pilule pour les fumeurs. Tiens, il y en a une qui prend la pilule pour les fumeurs. Je sais pas ce que c'est que ce truc.
Alors, j'ai coutume de dire que non, la pilule pour les fumeurs et les fumeuses, ça n'existe pas.
Bah oui.
Que, malheureusement, la cigarette, c'est toxique, quoi. Bon, voilà, bon. C'est un toxique.
Sinon, au-delà de cette petite boutade, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce que vous entendez, là?
Bah, j'allais dire, c'est les jeunes qu'on rencontre absolument dans les centres de planification, hein, de l'association. Et tous les milieux sont concernés. L'influence du discours sur les dangers des produits hormonaux, le retour à la nature,
oui.
On sent que c'est très fort dans cette classe d'âge là, sans trop avoir de réflexion sur le pourquoi, le comment, etc. Mais bon, pour les trentenaire, par contre, c'est beaucoup plus construit comme discours, mais c'est le même.
Bon, voilà. Alors, cette méfiance, voire cette peur par rapport à la pilule, est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce que la pilule peut... Alors, en 67, on parlait de cancer, bon, on parle de cas de thrombose veineuse, d'embolie pulmonaire. Quelle est la réalité du danger réel ou supposé de la pilule?
Alors, comme tout médicament et tout produit, il peut y avoir des complications, des effets secondaires. Je veux dire, on sait quand on prescrit la pilule qu'à certaines femmes, il ne faut pas la prescrire parce qu'elles ont des contre-indications. Donc, on va pas la prescrire, c'est certain. Pour d'autres, on confond les effets secondaires avec des... J'allais dire des petites choses qui peuvent arriver, même qu'on relie à la prise de la pilule et qui ne sont pas liées forcément à la pilule. C'est-à-dire qu'on met tout sur le rôle du médicament et non pas sur autre chose. Donc la pilule, elle a, comme tous les moyens de contraception, des contre-indications. Il peut y avoir des effets secondaires, mais c'est... un tout petit pourcentage.
Oui, la balance beaucoup. Entre les avantages et les inconvénients, elle est complètement déséquilibrée.
Absolument. C'est le bénéfice-risque, il est en faveur du bénéfice. C'est
très en faveur même.
Oui, très en faveur.
D'après les chiffres que vous donnez, hein, bien
absolument.
Sûr.
Au niveau, c'est reconnu au niveau mondial. Je veux dire, il n'y a pas de souci à se faire.
Parce qu'il faut le répéter, la preuve.
Il faut le répéter, ah, oui. Même si on a un recul depuis 1955, quand même, ce qui représente...
Un recul de quoi?
Un recul par rapport aux effets, justement,
d'accord.
De la pilule.
Très bien.
On sait
c'est
que ça n'en a pas sur les les générations suivantes, etc.
Bien, alors on va retrouver pour une minute et demie les ados d'Anaëlle qui poursuivent leur débat enflammé sur la pilule.
Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de la pilule ? Est-ce que vous savez en quelle année ça a été légalisé, la pilule en France ? Pierre ?
C'est vague, hein, mais c'est dans les années 1900, je ne me rappelle pas quand exactement. Mais...
Ah ouais, 1900, c'est un siècle carrément, quoi. Et un peu plus précisément.
Moi, je sais que ma grand-mère, elle prenait la pilule, donc je dirais que ce serait genre vers 65, un truc comme ça.
Ouais, Marion, bravo, 67.
67,
ouais, juste avant mes 68. Est-ce que vous prendriez les hommes qui sont là, la pilule pour hommes ?
Pas du tout, jamais.
Pourquoi ?
Bah, on vient de le dire, de toute façon, si on prenait la pilule à long terme, et ben, en gros, il y a des effets et tout qui vont se faire et des problèmes au niveau santé et tout ça, donc je prendrais pas la pilule.
Et toi, Firat, tu prendrais la pilule pour homme ?
Disons que moi, tout ce qui est médicaments, j'essaye d'éviter assez. Et, Non, mais ce que je veux dire, c'est que le préservatif, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel. Et donc en fait, je pense que certains hommes peuvent voir un peu une mise à mal de leur vulgarité par la prise de la pilule.
C'est trop féminin.
Bah, déjà, c'est une pratique qui a été développée pour les femmes. Et donc le développement d'une pilule pour hommes...
Je sens que Capucine va réagir.
À mon avis, c'est pas parce que quelque chose a été conçu pour les femmes en premier lieu que ça peut pas être maintenant utilisé pour les hommes, surtout si ça a été conçu pour convenir aux hommes et du coup
s'adapter.
Mais voilà, c'est ça, s'adapter.
Le macho dans toute sa splendeur.
Sauf que la pilule, c'est remboursé par la sécu, les préservatifs, non. Là est la différence.
Excuse-moi, mais payer 2 euros pour mettre un bout de tissu sur ton sexe, c'est chaud quand même. Hein. Alors que si on te propose une pilule qui est faite pour ton corps et plus ou moins par des molécules qu'il y a dans ton corps, je préfère ça plutôt que de prendre un bout de tissu et de le mettre sur mon sexe avant de faire l'amour.
Un bout de tissu, mystère. Daniel Gaudry, que pensez-vous ? Alors la contraception pour les hommes, c'est une vraie question.
C'est une vraie question et qui émerge de plus en plus. On en parle de plus en plus.
C'est logique d'ailleurs.
Et c'est très bien, je veux dire, qu'on en parle. À part que, effectivement, on n'a pas encore grand-chose à leur proposer dans la réalité. Quoi. Donc, on parle du préservatif, bien sûr, mais encore faut-il qu'il soit utilisé à tous les rapports. Et on a entendu que ce n'était pas le cas dans votre petit reportage. Il y a le slip chauffant, mais je n'ai pas développé, je n'ai pas le temps. Mais penchez-vous sur Internet sur la question du slip chauffant, messieurs. Et également, il y a...
Ça ne fait pas envie. Hein. Enfin bon.
Et également, il y a la contraception hormonale, mais qui actuellement n'est pas encore complètement mis au point.
Non, parce que c'est une vraie question. Voilà. C'est ça qui m'intéresse.
C'est une vraie question sociale.
Est-ce que vous pouvez, en 30 secondes, je suis désolé, répondre à cette question qui est importante. Le taux d'avortement reste important alors qu'il y a la pilule. Je sais, c'est une grande question. La dichotomie, là, elle vient d'où ?
Oui, j'allais dire.
En 15 secondes,
c'est terrible. Le nombre d'avortements ne pourra jamais être égal à zéro, quelle que soit la technique utilisée au niveau contraceptif. Parce que c'est deux choses qui se complètent et non pas qui s'opposent.
Voilà, qui se complètent. Merci infiniment, Daniel Gaudry. Vous avez réussi en 15 secondes. Bravo, en tout cas. Et pour l'ensemble des éclairages que vous nous avez apportés. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la pilule contraceptive, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Jérémy Guillon qui était à la technique aujourd'hui.